Le chemin des transitions. Denis et.
Bonjour à toutes et à tous. La clé des ondes, la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau. Et Dynamo, l'association qui amène l'eau là où elle n'est pas, vous accompagne sur le chemin des transitions. L'émission qui chaque semaine vous propose de marcher dans les pas d'un guide éclairé vers un monde meilleur. Aujourd'hui encore, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Olivier Soria, docteur en droit, largement spécialisé entre autres dans le droit de l'environnement, dont il a fait un cheval de bataille acharné. C'est quelque peu désarçonné que je l'ai reçu et écouté nous parler de la bonne nouvelle qui constituait le durcissement des règles d'installation des éoliennes. Vous pouvez retrouver l'émission, bien sûr, sur le site de la Clé des Ondes. Alors, quelle énergie pour demain, Olivier ? La géothermie, m'a-t-il dit, sans qu'on puisse développer le sujet lors de notre dernier entretien. Il revient donc nous présenter ses réflexions sur le sujet et éclairer notre lanterne. La géothermie, c'est produire de l'énergie à partir de chaleur puisée dans le sous-sol, valorisée pour des installations de chauffage ou de climatisation, ou même la production d'électricité, mais c'est plus rare. C'est une énergie renouvelable, à faible émission de gaz à effet de serre, et disponible partout. Oh là là, formidable ! Et nos gouvernants ont même imaginé une politique volontariste pour soutenir le développement de la filière. Simplification du cadre réglementaire, aide à l'investissement, soutien à la production d'électricité renouvelable, fonds de garantie géothermie et soutien à la recherche et à l'innovation. C'est trop beau pour être vrai ! C'est ce que nous allons voir avec Olivier Soria.
L'association Dynamo vous accompagne sur le chemin des transitions.
Bonjour Olivier.
Bonjour.
Bon alors, les énergies vertes, hein, c'est-à-dire qu'elles soient soi-disant propres et renouvelables, est-ce que ça existe vraiment ? Parce que l'éolien, le solaire, l'hydraulique, la biomasse, le biogaz, tout ça, ça présente des inconvénients qui sont un peu trop vite passés sous silence quand on nous les présente. Alors, est-ce que pour la géothermie, on peut faire... Là aussi, il y a une impasse qui est faite sur les inconvénients, ou est-ce que c'est vraiment super ?
Eh bien oui, effectivement, on avait vu ensemble la fois dernière que principalement les deux grandes énergies renouvelables avec lesquelles on nous bassine, c'est-à-dire le solaire et l'éolienne, en fin de compte, c'était extrêmement polluant. Alors certes, c'est pas aussi polluant que le nucléaire, mais ça reste extrêmement polluant avec des déchets dont on ne sait pas quoi faire. Bon. Et la géothermie, l'avantage de la géothermie, c'est que non seulement il n'y a pas de déchets, donc c'est quand même déjà un avantage considérable de ne pas avoir de déchets, mais en même temps c'est une énergie, la grande différence c'est qu'elle n'est pas en alternance, c'est-à-dire il ne faut pas des conditions climatiques particulières du vent ou du soleil, c'est-à-dire que intermittente, ce qu'on appelle les énergies intermittentes, eh bien, qui justifient, parce qu'elles sont intermittentes, l'existence du nucléaire, puisqu'il nous faut de l'énergie constante. Et donc si vous développez des éoliennes et vous développez du solaire, vous aurez toujours besoin du nucléaire. Par contre, avec la géothermie, c'est ça qui est génial, c'est que c'est l'énergie qui produit en permanence. Donc, qui peut remplacer le nucléaire et qui peut être une alternative au nucléaire.
Voilà, là, je vais me faire tirer les oreilles parce que j'ai pas dû bien assez étudier le sujet, mais si on sort de la chaleur, qu'est-ce qu'on en fait l'été ?
Alors, en fait, ce qui est bien avec ce processus, c'est que on a trois niveaux de géothermie, ce qu'on appelle la géothermie de très surface, qu'on a pu appeler encore très traditionnellement le puits canadien, donc ça nous fait gagner quelques degrés. Et puis après, on a des géothermies qui vont jusqu'à 200 mètres, donc ça s'appelle des géothermies de surface, et qui permettent effectivement de récupérer, de faire chauffer des îlots d'immeubles, etc. Et l'avantage, c'est que ça marche avec des pompes à chaleur. Et ces pompes à chaleur, eh bien, l'été, notamment lorsqu'on a des canicules, eh bien, de pouvoir produire du froid. Donc c'est quand même assez fabuleux. C'est que, avec le. Bon, c'est quelque chose de traditionnel, le chaud fait du froid et le froid fait du chaud. Mais là, on peut évidemment refroidir des bâtiments entièrement grâce à la géothermie.
Oui, mais est-ce qu'on n'a pas là une contrepartie, un développement de chaleur comme sur une clim traditionnelle ou pas ? C'est ça que j'ai pas compris, en fait.
C'est-à-dire,
quand on a sur une clim traditionnelle, on a un diffuseur d'air chaud qui est à l'extérieur et de l'air froid à l'intérieur. Et là, ça va être pareil, non ?
Oui, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on inverse après le processus. C'est-à-dire que si on a besoin en hiver, on va mettre effectivement la partie chauffage. Donc ça va permettre de chauffer à moindre coût, effectivement, des îlots d'immeubles extrêmement importants. Donc, et en même temps, là où c'est intéressant avec le géothermie, c'est que ça ne fait pas que de la chaleur. scolaire, ça peut aussi, ça s'adapte aussi à nos conditions de changement, de la déréglementation climatique, qui fait qu'on a des excès de froid ou des excès de chaleur, et notamment des canicules en été, et donc permettre de refroidir les bâtiments sans passer par des phénomènes de climatisation extrêmement gourmandes en électricité.
D'accord, donc, parce que moi je connais un petit peu le principe là, du puits canadien où effectivement on creuse un tunnel d'air qui est toujours à une température... alors à 12 degrés en hiver, ça fait quand même de l'air plus chaud qui rentre. Exactement. Et à 12 degrés en été, ça fait de l'air plus frais. Voilà. Donc ça c'est... On est un petit peu sur le même principe.
Oui, on est sur le même principe, sauf que les écarts sont beaucoup plus importants puisque évidemment, lorsqu'on est sur des températures de l'ordre de 40-50 degrés, eh bien effectivement, ça veut dire que on va pouvoir chauffer dans des immeubles à des niveaux de 25, 20, maximum 25-20 degrés, donc largement suffisant, mais en même temps avoir suffisamment de ressources pour pouvoir les refroidir pendant l'hiver, pendant l'été, pardon.
Eh bien, je propose qu'on écoute une petite chanson, le temps de sortir la perceuse pour aller chercher l'eau dans le sol. Allez, on y va. Alors, Damien Saez veut du nucléaire. Mais nous, on a une solution pour lui. On va lui apporter la géothermie.
Environnement, économie, finance, citoyenneté, solidarité. Les transitions vers le monde de demain sont multiples. Chaque semaine, notre invité nous accompagne sur son chemin des transitions.
Eh bien oui, vous êtes bien sur la clé des ondes et vous écoutez le chemin des transitions. Nous avons la chance aujourd'hui d'être avec Olivier Soria, que je ne présente plus parce que je l'ai présenté plein de fois. Puis de toute façon, si vous ne connaissez pas, vous irez voir sur le site et vous découvrirez son pédigré. On parle aujourd'hui de la géothermie, cette énergie miracle, ou presque, hein, puisque finalement, il y a énormément d'effets positifs. La grande surprise, c'est que le gouvernement aurait pour une fois une bonne idée, puisqu'ils ont décidé d'inciter, de faire des mesures d'incitation fortes. Olivier, on en est où sur le développement de la géothermie en France ?
C'est presque étonnant, connaissant quand même le gouvernement Macron. Donc, ce n'est pas leur style de faire des choses plutôt bien dans l'environnement. Là, on peut être assez étonné. Ils ont quand même mis pas mal d'investissements permettant... Bon, alors certes, ça reste une vision un peu libérale, c'est-à-dire de dire qu'on va développer à l'échelle individuelle, c'est-à-dire pour des maisons particulières ou des îlots de s'appelle de maison, la géothermie. Bon, donc ça fait que les gens qui ont rendu sous pourront effectivement se les payer, mais comme Macron le fait toujours, ben on va aider les riches. Bon, les riches, proprement dit, eh bien, on va permettre de pouvoir financer, un peu comme avec le solaire, la moitié des investissements qui sont quand même s'ils sont beaucoup moins chers que le nucléaire, parce que ce n'est pas comparable, évidemment, mais il faut savoir qu'un investissement en géothermie, disons, à 100 mètres de profondeur, ça coûte autour de 30 000 euros.
Bon. Alors, 100 mètres de profondeur, oui, mais... Ça coûte 30 000 euros, mais ça donne quoi ? Ça dépend de l'endroit où on creuse, la chaleur qu'on trouve.
Exactement. En moyenne, on considère que tous les 100 mètres, on gagne 3,5 degrés. Bon. Donc le problème, c'est que ça, c'est vrai, bon, c'est une moyenne, sauf qu'après, ça dépend des sols. Donc en France, nous, on a l'avantage, c'est qu'on a quand même beaucoup de massifs montagneux, donc les Pyrénées, donc où il y a des sources chaudes qui sont très importantes, les Alpes, évidemment, le massif central, très important, et les Cévennes et les Ardennes.
Le massif central, on est même sur une zone qui était, en tout cas, anciennement volcanique. Voilà, donc il doit y avoir encore plus de chaleur, hein, non ?
Oui, il y a encore beaucoup de, comment on appelle ça, de sources d'eau chaude, on s'appelle en Auvergne notamment, et donc aussi en Bretagne. Et donc on n'a que vraiment la région du Nord où il y aurait effectivement, où la géothermie ne serait pas la meilleure des solutions. Mais disons, 90% du territoire français peut être aujourd'hui couvert par la géothermie. Et ça, donc, c'est intéressant parce que nous, on produit au niveau français, il faut savoir qu'on est à peu près classé au niveau 10e, au niveau mondial. On a à peu près une production de l'ordre de 4,5 millions de gigawatts. Bon, enfin de mégawatts, pardon, de mégawatts.
Oui, mais alors, ça représente quoi pour les gens qui nous écoutent, parce que, et pour moi aussi d'ailleurs, 4 millions de mégawatts, c'est beaucoup, c'est...
Oui, alors l'équivalent, ça correspond à peu près à 9 centrales nucléaires relativement importantes.
9 bon. Centrales nucléaires, ah oui, c'est quand même pas négligeable.
Donc l'air de rien, c'est autant de produits... toxiques en moins, autant de dangers en moins aussi, parce que les risques d'explosion, etc., autant effectivement de déchets nucléaires en moins, donc on ne sait pas quoi les faire. Bon. Après, on a des investissements beaucoup plus profonds, c'est-à-dire entre 200 et 2500 mètres de profondeur, et là, c'est plutôt alors c'est un truc très particulier, on ne retire pas tellement la chaleur, mais là, on va transformer cette chaleur en électricité. Et donc, on va permettre d'avoir des températures extrêmement élevée et on n'envoie pas de l'eau pour le coup, c'est pas de l'eau qui monte pour mettre en état de ça s'appelle de vaporisation à plus de 100 degrés, mais c'est une sorte de litre de liquide qui va rentrer en ébullition à partir de 60 degrés et donc il va permettre de faire tourner les turbines et de créer l'électricité.
Alors, ça c'est un processus bien particulier pour directement la production d'électricité, pas la récupération de chaleur.
Exactement, mais on peut le faire. Alors en France, il en existe deux exactement, il existe en Guadeloupe, qui en existe un, et le deuxième qui se trouve en Alsace. Voilà. Mais il faut savoir que, par exemple, l'Italie, qui est une autre voisine, utilise beaucoup de géothermie, mais pas tellement pour la chaleur, mais principalement pour l'électricité. Voilà.
Et donc, on peut produire de l'électricité là, sans pollution, sans émission de gaz à effet de serre.
Voilà, surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de gaz à effet de serre. La seule chose qu'il y a, on va créer des gaz à effet de serre, effectivement, c'est pour creuser. Donc, il faut creuser le puits. Et puis, c'est un matériau qui n'est pas isotherme, justement, qui permet l'échange de chaleur relativement important, sans pour autant contaminer le milieu. C'est-à-dire qu'on envoie de l'eau sous pression, et effectivement, cette eau va se chauffer progressivement en descendant dans les profondeurs. Et ça, c'est à vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de la chaleur ou de l'électricité à vie. Et donc, c'est pour ça que le capitalisme a toujours été très réticent sur cette énergie. C'est qu'une fois qu'on a creusé le trou, après, on paie quasiment plus rien.
C'est quoi les frais de fonctionnement, les frais de maintenance? Comment ça se passe? Il y a beaucoup de choses à faire une fois que... Alors, je suis venu avec ma super foreuse, parce que je pense qu'il faut du matos pour creuser à 2000, mais enfin bon, on va y revenir. Et une fois que c'est installé, on fait quoi? Il n'y a rien à faire?
Il n'y a plus rien à faire. Il y a seule chose à regarder, c'est le fait que le niveau d'eau, parce que c'est toujours la même eau qui est récupérée, qui est réinjectée. Alors, il y a une petite perdition. Il faut savoir qu'il y a toujours une perdition d'eau. Donc, il faut un petit peu régulièrement l'alimenter, mais c'est relativement très... Ça s'appelle très peu. Donc, il n'y a pas des volumes d'eau importantes, donc comme d'autres styles d'énergie qui demandent énormément de consommation d'eau, etc.
Donc, une fois que c'est installé, il n'y a plus de chiffre d'affaires. C'est peut-être pour ça qu'on en entend beaucoup moins parler que l'éolien.
Ben oui, c'est un petit peu ça. Alors, pourquoi ils en parlent maintenant? Parce que, d'abord, ça évite effectivement que... Bon, prenez par exemple la grande centrale nucléaire là, qu'ils vont mettre en place, bon, qui a 10 ans de retard, enfin 20 ans de retard,
etc. L'EPR de Flamanville,
ouais,
c'est bien ça?
Oui, l'EPR de Flamanville, bon, qui coûte quand même 19 milliards. On est arrivé à une facture qui était prévue au départ à 3 milliards et demi, on a sorti à 19 milliards. Là, pour vous donner un exemple, un puits en très grande profondeur, c'est 29 millions. Mais une fois que vous avez payé vos 29 millions, c'est que du BDF.
Oui, alors, 29 millions, ça fait quand même une somme que je n'ai pas.
Oui,
hein.
Mais c'est pour des trucs, ça, c'est pour des, qu'on appelle ça, des forages très profonds, d'abord à 2500 mètres, et c'est pour une production d'électricité relativement importante. Donc, l'important dans la géothermie, c'est pas tellement développer tellement la géothermie de grande profondeur, mais plutôt celle de basse profondeur qui permet de chauffer donc des îlots d'immeubles relativement importants. Et il y a trois régions en France qui le font. C'est l'Île-de-France, qui est une des régions mondialement s'appelle où la géothermie est très importante. Je crois que c'est la troisième région du monde en termes de surface et de géothermie. Donc il y a une importance de l'Île-de-France, la région Aquitaine qui est la nôtre, et puis la région de Rhénanine qui est la région donc du côté de Lyon. Et on a par exemple chez nous à Bordeaux, on a énormément d'immeubles qui sont en géothermie. Bon, et notamment le dernier, c'est le lycée Victor-Louis, par exemple, à Talence, qui est complètement fait en géothermie.
D'accord. Et alors, qui investit? Il y a des investissements publics sur la géothermie pour, par exemple, chauffer des mairies, des centres, des bâtiments publics, etc. Ou c'est des particuliers? Et si je pense des particuliers, vu les coûts que ça représente, c'est plutôt des... sur des immeubles collectifs importants. Donc, qu'est-ce que...
Ouais, c'est ça.
On a un petit point là-dessus?
En fait, comme ce n'est pas une énergie développée, que cette énergie-là, bon, on va faire de la chaleur, donc ça n'intéresse pas tellement les investisseurs privés, parce qu'aller vendre de la chaleur, c'est pas très simple. Donc, en fait, c'est principalement que des investissements publics. Bon. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces investissements publics, eh bien, ils sont amenés... donc, pour justement le changement climatique, ça s'appelle à se développer de façon très importante. Et nous avons la région, par exemple, la région d'Aquitaine, qui a mis le forçat sur pouvoir, pour les piscines, pour les serres, par exemple, donc pouvoir développer cette géothermie à moindre coût et qui permet d'avoir de l'énergie. En plus, comme j'ai dit au départ, la chaleur l'hiver et le froid, par exemple, l'été.
Alors, je reviens juste sur le fait que j'ai signalé tout à l'heure qu'effectivement, il y a une politique volontariste de la part de l'État. Donc, mais ce sera bien pour aider des investisseurs privés.
Ben, on ne sait pas trop pour l'instant. Oui, ça va servir certainement, par exemple, pour des îlots importants d'immeubles, etc., qui pourront se brancher, ce qu'on appelle sur réseau mutualisé de chaleur. Mais effectivement, ça va servir d'infrastructure, quelque part, à l'accueil d'investissements privés, effectivement.
D'accord. Bon, on va se brancher sur Internet ou sortir le dossier fiscal et voir un petit peu les histoires de budget.
Dansez, nous dansons souvent au bord du cratère sur un volcan. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. Secouez, secouez-moi tout ça. Le charme discret, le calme plat. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. Danser, le tigre a faim. Danser, vous n'avez plus rien. Danser, petit bout de chair. Danser, au bord du cratère. Ni le magma. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. Danser, le tigre a faim. Danser, vous n'avez plus rien. Petit bout de chair, danser au bord du cratère.
Maison Tellier qui est sur un volcan, et pour notre sujet, ben, ça tombe bien.
Le chemin des transitions. Denis Hay.
Oui, vous écoutez le chemin des transitions sur la clé des ondes, bien sûr. Et nous sommes avec Olivier Soria et on parle un petit peu de géothermie. Alors j'évoquais juste avant qu'on écoute cette chanson... les aides gouvernementales. Alors, on n'a pas trouvé tout à fait le bon lien, mais de toute façon, je vous le mettrai. Si vous êtes investisseur, vous envisagez de construire des immeubles, mais donc il doit y avoir des moyens de le faire aussi à échelle individuelle. Et ça, je vous mettrai toutes les infos sur le site. Mais en attendant, Olivier me proposait quand même de faire un petit tour d'horizon mondial pour voir un petit peu comment ça se développe à droite, à gauche, et si la France est dans le coup. Sur cette affaire.
Voilà, c'est ça qui est le plus vraiment très intéressant. Il faut bien comprendre que cette notion de géothermie peut être effectivement, c'est la seule énergie qu'on connaît qui peut faire le pendant au nucléaire, parce que justement elle n'est pas intermittente. Et donc on voit au niveau mondial, c'est que pour le premier pays qui a développé le plus la géothermie, c'est les Chinois.
Comme par hasard.
Eux, ils sont très très loin devant, à plus de 123 millions de mégawatts. Arrivent les Américains en seconde position, mais bien loin, ils sont à 42 millions. Bon, et après, on arrive avec les pays comme l'Islande, etc. Et puis surtout, le Japon et l'Allemagne, qui sont deux pays...
pays qui sont plutôt dénucléarisés.
Voilà, c'est ça qui est très intéressant. Ce sont deux pays qui sont dénucléarisés, et pour deux raisons d'ailleurs différentes, puisque l'Allemagne, c'est plus une volonté politique, alors que le Japon, on sait que c'est suite à la catastrophe de Fukushima. Bon. Et ça, pour nous, les Français, je crois que l'histoire du Japon nous parle beaucoup plus, parce que c'est vraiment un pays... très nucléarisé, qui avait à peu près 52 réacteurs nucléaires, là où nous, on en avait 56, 57. Bon. Et donc, du jour au lendemain, les Japonais cessent, après Fukushima, l'utilisation quasiment des 90% de leur parc nucléaire, c'est-à-dire il leur restait plus que deux. Ils ont gardé en action deux réacteurs nucléaires, mais tous les autres, il y en a 52 qui ont disparu. Comment une puissance industrielle, la troisième ou quatrième puissance industrielle mondiale, a pu faire pour se passer du nucléaire? Puisqu'on nous dit, nos politiques nous disent, ah, le nucléaire, on ne peut pas se passer du nucléaire, etc. Comment le Japon y est arrivé? Là, c'est important pour nous, parce que de voir par quel processus ils sont arrivés. Ils y sont arrivés dans le premier temps en disant de manière immédiate, eh bien, on va passer par du gaz liquéfié. Donc, ils ont développé effectivement le gaz liquéfié, mais en même temps, ils ont dit, on va développer la géothermie à tous les niveaux. Bon. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait même un appel international, et c'est une société française qui a répondu, parce qu'il fallait des garanties environnementales que lorsqu'on fait des puits au Japon, eh bien, qu'il n'y ait pas d'abord de séisme, ça ne crée pas de séisme, et que deuxièmement, il n'y ait pas de contamination de l'eau, de l'eau qui est utilisée pour faire donc sa géothermie vis-à-vis du milieu. Bon. Et donc, c'est une société française qui a répondu à cet appel d'offres. Et aujourd'hui, il faut savoir que l'Allemagne, comme le Japon, sont à peu près équivalents. Je crois que c'est 8,5 millions pour le Japon de mégawatts. Et je crois que l'Allemagne, c'est 8 millions. Donc, c'est quand même des pays qui ont une importance de la géothermie très importante et qui comptent le développer dans les années à venir jusqu'à représenter 30% de leur production d'énergie. Notamment le Japon s'est fixé pour 2030 un objectif de 30% de géothermie, donc de production géothermique à l'horizon 2030, c'est-à-dire exactement dans 6 ans.
Nous en France, on en est où en termes de pourcentage de production par la...
Voilà, nous en France, ça représente pas grand-chose, ça représente, on a quand même dit que ça représentait 9 centrales nucléaires, mais ça représente aujourd'hui 1,37% de la production d'énergie. Là où le solaire en représente à peu près 5% et les éoliennes à peu près 8%.
Et l'hydroélectrique ?
Et l'hydroélectrique, ce qui manque le plus important, c'est-à-dire 18%, sachant que l'hydroélectrique, en ce moment, on est barré avec l'Europe, puisqu'on ne peut pas investir dans l'hydroélectrique parce que l'Europe a considéré qu'on ne fait pas venir suffisamment d'investissements privés dans le truc hydraulique. Donc, il y a un conflit entre la France et l'Europe vis-à-vis de ça. Donc, la filière est un peu morte à l'heure actuelle. Mais par contre, la géothermie, elle a tout son avenir là-dessus. Et comme je répète, on voit bien que le Japon a été un exemple où on peut se passer de nucléaire.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Olivier, merci.
Merci à toi, Denis.
Et le chemin des transitions, c'est fini pour aujourd'hui. Allez, au revoir à toutes et à tous. Nous recevions bien sûr Olivier Soria, docteur en droit et porteur de dizaines d'autres casquettes à découvrir sur les liens qui seront bien sûr sur le site de l'émission. Toutes les infos seront là sur le site avant la fin de la semaine. Le chemin des transitions, c'est une émission produite par Dynamo EAU à la fin, l'association qui amène l'eau là où elle n'est pas. Alors bien sûr, on se retrouve sur dynamo.org ou laclédesondes.fr. Merci à Tom, notre virtuose de la table de mixage, à Maxime, notre champion du carnet d'adresse, Xavier, notre grand Manitou, Baptiste, notre couteau suisse, et Léa, nos deux nouvelles petites pépites. Les place maintenant à Point Chaud, l'actualité sociale, évidemment, suivi de Climat de lutte, comme son nom l'indique, et puis ensuite, place à de la musique. Vous aurez de la musique grecque, et ensuite, vous aurez du jazz. Allez, soyez sympas avec vous, soignez-vous, écoutez la clé des ondes. Bye bye, à la semaine prochaine.